RCF.
Jacques Semelin, il y a évidemment bien d'autres parties du monde qui sont concernées par ce combat non violent et on va donc poursuivre avec le continent sud-américain, très marqué par la violence, par les dictatures dans la deuxième moitié du XXe siècle. Parallèlement, se développe donc ce combat très particulier.
Oui, je pense tout de suite au combat des maires de la place de Mai. On les a appelés les folles de Mai. En Argentine, on est au milieu des années 1970. Le gouvernement dictatorial s'est installé en Argentine en 1976, du général Videla. Et ils ont réfléchi à ce qu'ils croient être une technique imparable pour instaurer la terreur dans ce pays. C'est la technique des disparitions. On arrête des opposants politiques et puis on n'a plus jamais de nouvelles. En réalité, il y a un truc, si j'ose dire, auquel ils n'ont pas pensé. C'est le rôle des femmes. Et ces femmes vont venir demander des nouvelles. Et finalement, elles ont décidé de faire quelque chose d'absolument interdit, c'est de manifester sur la principale place de Buenos Aires. Alors, on n'avait pas le droit de manifester, mais elles ont tourné autour de la place.
Silencieusement.
Et il faut s'imaginer le courage de ces femmes, parce que, bien sûr, elles ont très peur de se faire arrêter comme leurs compagnons, comme leur pari, etc. Et puis ensuite va se produire la Coupe du Monde de football, 1978, en Argentine, qui va donner un écho international à cette action. Donc, pour l'Amérique du Sud, c'est vraiment une date clé, un pays clé. Premièrement, parce qu'on voit le rôle des femmes. On a parlé de Gandhi, King, d'accord, des leaders un peu religieux en même temps. Mais il y a aussi des femmes qui se mobilisent de façon de plus en plus forte dans ce type d'action. D'ailleurs, il y avait les suffragettes en Angleterre au début du XXe siècle. Et il va aussi avoir le rôle de l'Église. Un militant argentin, Adolfo Pérez Esquivel, qui va soutenir ces femmes, va obtenir aussi le prix Nobel de la paix avec son organisme qui s'appelle le Serpage, Paz y Justicia, en 1980. Donc c'est une action qui va rayonner aussi au-delà de l'Argentine, bien sûr en Europe et dans d'autres pays d'Amérique du Sud.
Révolution. Femmes au regard bouleversant défilent inlassablement. Chaque jeudi que Dieu donne, soutenu par la Madone, loin des yeux de l'Occident. Près des canons qui résonnent, les femmes au regard bouleversant défile inlassablement. Oh non, chaque jeudi que Dieu donne, soutenu par la Madone, loin des yeux de l'Occident.
L'Amérique du Sud et évidemment aussi l'Asie, où les dictatures fleurissent, un terreau qui fait naître cette forme de résistance toute particulière.
Et dans des pays où on ne l'attend pas. Vous voyez, il y a une dimension inattendue de ce développement de cette forme de résistance. Et on va trouver d'ailleurs une autre femme au premier plan, c'est Cory Aquino aux Philippines. Alors là, on est au milieu des années 1980. Le président Marcos qui dirige ce pays et les élections sont truquées. Et en principe, c'est Cory Aquino, la représentante de l'opposition, qui aurait dû gagner les élections. Ces fraudes vont révolter la population, en particulier d'abord à Manille. Vous allez voir des manifestations monstres. On va d'ailleurs appeler ça le « people power », de gens qui réclament la démission de Marcos et la victoire de Cory Aquino. Notez-le aussi, l'Église catholique joue un rôle dans la mobilisation de cette population et dans le choix d'une stratégie non-violente. Et je crois qu'il est important d'évoquer la figure de Jean Gosse. Alors, on a sans doute un peu oublié aujourd'hui, mais Jean Gosse, cheminot français, dans les années 50-60, faisait des conférences parlant de la non-violence évangélique. soutenu par l'IFOR.
Et par sa femme, Hildegarde.
Vous avez tout à fait raison, Hildegarde Goss. Et il s'est retrouvé aux Philippines et il est pratiquement certain qu'il a joué un rôle de formateur à l'action non-violente, de cadre de l'Église. Et donc, en 1986, cela, on va dire, explosé, mais dans un sens non-violent. Et une partie de l'armée s'est dissociée de Marcos et Marcos a dû abdiquer.
Aung San Suu Kyi, évidemment, aussi est une figure féminine incontournable quand on parle de l'action non violente.
Oui, là on est en Birmanie, un petit peu plus tard. On n'est pas vraiment dans le même contexte parce que c'est une figure féminine forte, mais elle est quand même très isolée, elle n'a pas le droit de sortir, elle représente l'opposition, les généraux la surveillent en permanence, mais elle va avoir la force de faire un discours en 1988 pour appeler à la démocratie par des moyens non violents. Et donc cette femme va incarner une nouvelle voix dans son pays, et elle va l'incarner jusqu'à aujourd'hui, pour demander une réforme fondamentale du régime politique en Birmanie. Et notez-le, souvent, les stratégies non violentes cherchent à œuvrer dans le sens des droits de l'homme, bien sûr, mais aussi pour l'instauration de régimes démocratiques, c'est-à-dire pour déconstruire les dictatures.
Peut-être qu'une des plus grandes figures qui symbolise ce combat non-violent, c'est le Dalai Lama.
Absolument. Alors là, on est aussi en Asie avec le Tibet. Le Dalai Lama est certainement très influencé par Gandhi. Il parle souvent de compassion, voyez. Et dans son affrontement avec Pékin, il prend toujours soin de ne pas avoir des propos provocateurs, dans ce sens, non pas d'une compromission, mais d'une volonté de ne pas choquer l'adversaire, tout en affirmant les droits du peuple tibétain. C'est pas un hasard, d'ailleurs, si à la fois le Dalai Lama et Aung San Suu Kyi ont eu tous les deux le prix Nobel de la paix. Donc, des personnalités extraordinaires qui, à travers leur charisme, incarnent la volonté d'un peuple à sa liberté, à son émancipation par des moyens non violents.
Alors si on continue avec les grandes figures incontournables qui ont une aura et un retentissement international, il y a évidemment celle de Nelson Mandela, on va évidemment en Afrique du Sud, avec quelque chose de tout à fait fondamental qui est le respect de l'adversaire. Ne pas chercher ni à humilier, ni à agresser l'autre.
Alors vous avez tout à fait raison d'associer à la figure de Mandela, mais je dirais... C'est la figure de Mandela qu'on connaît la mieux, c'est-à-dire après 27 années de prison. Effectivement, il y a l'idée de la réconciliation avec les Blancs, et je voudrais y revenir. Mais il y a quand même une autre figure de Mandela dans les années 50 qui est d'abord pour la lutte armée. Et ici, il faut évoquer aussi une autre figure de l'ANC avant Mandela, c'est Albert Luthuli. On l'a complètement oublié, c'est un pasteur. Et il est très inspiré par l'action de Gandhi. D'ailleurs, Gandhi a été en Afrique du Sud, donc à Johannesburg. Donc il a laissé des traces malgré tout. Donc Albert Luthuli, dans tout le courant des années 50, va essayer de développer une stratégie non-violente, de non-coopération avec les Blancs, avec plus ou moins de succès. Et Mandela, le jeune Mandela, prend de plus en plus de distance. Il y croit au début et en même temps, il appelle à la lutte armée. Parce que il considère que la non-violence, ça va bien tant que l'adversaire est gentil, mais si l'adversaire
est violent,
on n'a pas le choix. Tous les libérateurs disent ça, en gros. Beaucoup de gens qui choisissent la lutte armée finissent par dire ça. Donc, il y a ce Mandela-là qui prône la lutte armée. Un des tournants, c'est le massacre de Charpeville en 1960 qui va déterminer l'ANC à développer cette lutte armée. Ça sera un peu la fin de la dominance d'Albert Luthuli, qui a cependant eu lui aussi le prix Nobel de la paix. Néanmoins, Mandela, comme on le sait, a été arrêté et il a beaucoup réfléchi sur cette évolution. Et dans les rapports qu'il a eus avec les autorités sud-africaines, il y avait cette idée de faire une transition, lui acceptant en fait de renoncer à ce type de stratégie et se rapprochant de plus en plus de cette idée de réconciliation qui pourrait être qualifiée justement d'une approche non violente. Donc voilà, il y a une évolution de Mandela. Mais souvent dans des mouvements de lutte, c'est jamais très net. Les stratégies non violentes et les stratégies violentes se mélangent.
La frontière même Gandhi, est fine. Hein.
C'est ça. Même Gandhi, il a eu affaire à des gens, des Indiens qui voulaient développer la lutte armée. Mandela, c'est quand même une histoire absolument extraordinaire parce que aujourd'hui, il symbolise la non-violence, de la réconciliation. Martin Luther King, dans les années 60, reconnaissait le leadership de Mandela. Il disait les Noirs sud-africains, ils peuvent pas faire autrement. Donc, il y a une sorte de connivence, si vous voulez, comme ça. Et quand Mandela a été libéré, il a reçu un prix de la petite fille de Gandhi. Donc, il y a quand même beaucoup de connivence. Et Mandela, d'ailleurs, dans son discours, a parlé de Gandhi comme d'un guerrier sacré. Voilà, c'est un peu l'évolution de ce personnage extraordinaire.
On vous retrouve demain, Jacques Semelin, pour conclure ces entretiens. Merci beaucoup.